Chapitre 31. Le lynx. Il coupa les cordes qui les attachaient aux mains et les traîna hors de l'eau. Il souleva Margaret et la porta au pied de la falaise contre laquelle il l'assit. Puis, ayant rendu le même service à Francis Drake, il se laissa lui-même tomber sur le sable, s'affaissa et s'endormit d'un sommeil de brute. Lui aussi avait atteint la limite de son endurance. Lorsqu'il se réveilla, c'était la nuit. Une nuit glaciale, claire et étoilée. Le vent et la mer continuaient à mugir sur les rocs. Fernau se dressa. Il se sentit la bouche amère, la fièvre aux tempes, les membres rompus et une soif ardente. Il regarda machinalement autour de lui. Francis Drake et Margaret étaient toujours assoupis. Ils devaient se procurer de quoi les réchauffer, les réconforter, sinon ils allaient mourir. Cette pensée l'empêcha de réfléchir davantage. Il enveloppa d'un long regard l'Américain et sa fille, puis résolument se dirigea vers une sorte de sentier qui serpentait le long de la falaise. Il ne lui fallut que quelques minutes pour escalader le massif de basalte. Comme il en atteignait la cime, il s'arrêta net, à moins de 300 mètres de lui, dans un creux de terrain, cinq hommes étaient accroupis autour d'un grand feu. Des pêcheurs, des colons, des Russes, ils étaient cinq et paraissaient de haute stature. En jugé par leur silhouette, Fernau, en cas de combat, savait qu'il n'aurait aucune chance de vaincre. Impossible de songer à dissimuler son identité, ou du moins sa provenance. Mais que faire? Ces hommes, ils avaient du feu et sans doute de quoi manger. Et en bas de la falaise, Margaret Drake allait mourir si elle n'était pas secourue. Cette pensée décida le Canadien. Il bondit vers les inconnus et, étant arrivé à quelques mètres d'eux, faillut trébucher de stupeur en entendant parler anglais. Il put alors distinguer que les cinq hommes étaient engoncés dans des vêtements de toile goudronnés qu'il avait pris de loin pour des fourrures. C'étaient des marins, des naufragés sans doute. Mais une grosse voix arriva jusqu'à lui malgré les ululements du vent. « Hello, come here, boy, Russian ?»« Venez ici, vous êtes russe ?»« Non, canadien, » hurla Fernau de toutes ses forces. Et d'un dernier élan, il atteignit le cercle formé par les mystérieux personnages autour du bûcher. Il vit cinq hommes, cinq blancs, cinq marins, pour tout dire. L'un d'eux, dont le visage s'ornait d'un collier de barbe blonde, l'interpella. « Cosaque, eh ?»« Non, pas Cosaque, » rétorqua Fernau, presque indigné. « Officier de la marine marchande canadienne, à bord d'un baleinier. » J'avais été pris par les Russes pour contrebande au Promilov. Je me suis évadé. Mais je ne suis pas seul, j'ai des amis en bas de la falaise. Il y a une jeune fille, elle est près de mourir, évanouie. N'avez-vous rien à manger? Y a-t-il deux hommes qui veulent venir avec moi pour la monter ici avec son père? Ouais, nous sommes prêts à y aller tous, fit l'homme à la barbe blonde. Mais de quoi manger, nous n'avons pas grand-chose. Je crois que Jim a quelques morceaux de biscuits et c'est tout. Je suis le capitaine Watson du schooner Californian Ghost de Frisco. Et voilà tout ce qu'il reste de mon équipage. Nous avons fait côte cette nuit en essayant d'entrer dans la baie de Surbins qui est là, à 3 miles dans l'ouest. La drosse a cassé au bon moment. Et plus de 30 des nôtres sont chez les requins. Quant au Ghost, plus la peine d'en parler. Un autre schooner qui naviguait devant nous a réussi à passer, lui. Il avait un moteur auxiliaire. Il doit être dans la baie. Dès le jour, nous irons lui demander secours. En attendant, on va ramener vos amis. Combien sont-ils? 2, le père et la fille. Des Américains, Francis Drake et Miss Margaret Drake. « Ah, des parents du millionnaire !» interrompit Watson. Non, lui-même et sa fille. Mais Francis Drake a disparu depuis des mois. Et sa fille a péri dans le naufrage du Catalanka, je crois. Il paraît que non, puisqu'ils sont en bas, expliqua Fernaud. D'ailleurs, vous allez les voir. Ils se sont, comme moi, évadés du bagne d'Aniouchkine où ils avaient fait aller un misérable bandit nommé Kressler. Moi, je suis Pierre Fernaud, ancien lieutenant du schooner baleinier Krampus, que j'ai abandonné aux îles Bonin. Le Krampus de Tacona? Précisa Watson. Oui. Well, il s'est perdu corps et bien il y a 4 mois dans un typhon. Oh, vous avez de la veine. Well, Hobbs, Kate, Jim, venez avec moi, nous allons remonter ce pauvre Jean. S'il ne mange pas, ils se réchaufferont au moins. Et toi, Sam, veille à entretenir le feu, hé! Le capitaine Watson et 3 de ses hommes se levèrent et, derrière Fernaud, descendirent sur la grève s'étendant sous la falaise. Francis Drake et Margaret étaient toujours sans connaissance. Ils furent remontés et étendus devant le feu sans s'être ranimés. Mais la chaleur fit bientôt sentir ses bienfaisants effets. Francis Drake, le premier, donna signe de vie. Il ouvrit les yeux, considéra avec effarement ces hommes qui le regardaient et murmura « Margaret !»« Mon père !» répondit faiblement la jeune fille en esquissant un mouvement pour se redresser, mais sans y parvenir. Le capitaine Watson possédait encore quelques centilitres de brandy dans une gourde. Il les partagea entre Francis Drake et sa fille. Ce peu d'alcool aida à la résurrection des naufragés. Margaret grignota quelques brins de biscuits donnés par un des marins du Ghost. Francis Drake, lui, ne trouva même pas l'énergie de manger. Ayant terminé son récit au capitaine Watson, il retomba dans sa torpeur, imitée presque aussitôt par sa fille. Fernaud n'était guère en meilleur état. Le sommeil s'empara de lui immédiatement. Une brusque secousse le fit se redresser. Ses yeux ouverts virent le jour et il reconnut, penché sur lui, le capitaine Watson. Est-ce qu'il y a? Demanda-t-il encore mal réveillé. Le capitaine du Ghost hocha la tête et se baissant un peu plus vers le Canadien, grommela. Ce schooner, eh bien, je crois qu'il appartient à Carl Kressler. Fernaud fut sur son pied d'un bond. Le schooner, il est à Kressler? S'écria-t-il. Mais comment le savez-vous? Oh, je vais vous le dire, pas difficile. Je suis parti vers 8 heures avec Hobbs et Kim pour rendre visite au capitaine du schooner en question et lui demander de nous prendre à bord. Well, une fois arrivé en haut de la Cablaise que l'on voit d'ici et qui domine la baie de Soussminsk, je pousse un soupir de soulagement. Le schooner était toujours à l'ancre. Rien ne bougeait à bord, signe qu'il n'était pas prêt d'appareiller et que nous avions le temps. Mais voilà que je vois une baleinière se détacher du schooner et voguer vers le fond de la baie. Une baleinière diablement garnie, 4 rameurs seulement et à l'arrière 7 hommes harnachés de fourrure et armés comme pour partir en guerre. Carabine, ceinture de cuir avec revolver et poignard, enfin tout ce qu'il faut pour s'amuser en société. J'ordonnais à mes hommes de se coucher dans la neige. Et à travers les branches d'un petit sapin qui poussait non loin de là et m'empêchait d'être vu, j'observais la baleinière. D'abord, j'avais pensé que le schooner appartenait à des contrebandiers. Cela m'expliquait leur armement, au cas où ils auraient rencontré des douaniers ou d'autres Russes, ils se seraient défendus. C'est le métier de contrebandier qui veut ça, mais cela ne me regardait pas. Mais que vois-je? La baleinière s'échoue au fond de la baie. Les 7 hommes armés en descendent, s'éloignent et disparaissent entre les rocs et sans rien emporter. ne faisait donc pas de contrebande. Well, ce n'est pas mes affaires, pensais-je. Et je commandai aux hommes de se relever et de me suivre. Et nous fûmes bientôt au bord de l'eau. Mais pendant que nous descendions vers la mer, la baleinière avait regagné le schooner. Ce qui fait que lorsque nous arrivâmes sur la plage, il n'y avait plus personne pour nous prendre. Je criais, mes hommes criaient, surtout Jim, il a une voix de cheval sauvage. On nous vit ou on nous entendit. Quatre hommes descendirent dans la baleinière qui se dirigea vers nous. Nous prîmes place à Coubord et arrivâmes à l'échelle du schooner. C'est le lynx de Mazatlan, Mexique. Mexique du diable, oui. Ils parlent tous anglais ou allemand à bord. Well, on me mena devant un grand gibier, haut de plus de 6 pieds, qui avait la plus belle tête de Prussien que j'ai vue dans ma dernière existence. Il me toisa de la tête aux pieds, comme s'il eût été un éléphant et moi une fourmi, et avec un accent aussi prussien que sa physionomie, me demanda ce que je voulais. Ce que je voulais, il aurait pu s'en douter. Mais quoi, je n'étais pas venu pour me disputer, et puis, ce que très probablement nous allions être compagnons de voyage, avec mon grand escogriffe, mieux valait s'entendre. Well, alors je lui raconte donc que je suis le capitaine du baleinier Ghost, que nous avons manqué l'entrée de la baie de Chobinsk, que le Ghost est au fond et que je venais lui demander de me prendre avec le restant de mon équipage afin de nous emmener soit au Japon, soit ailleurs. Et voilà mon gaillard qui commence à me toiser. Oh, je l'aurais giflé. D'abord, qu'alliez-vous faire à Chobinsk ? Grommela-t-il. Je sentais déjà le vinaigre me monter au nez lorsqu'il poursuivit. Au fait, cela ne me regarde pas, mais je regrette de ne pouvoir vous prendre. Je suis que le capitaine de ce navire. Le propriétaire est à terre, parti pour acheter des pots de zibeline. Sans traîneau ? Je réponds. Oui, sans traîneau, reprend le grand gibier, fronçant ses sourcils. Vous n'êtes pas marchand de traîneau, je suppose. Eh bien voilà, on va vous ramener à terre. Allez, arrangez-vous avec les indigènes ou avec les colons. D'ailleurs, j'appareille demain pour Nikolaïevsk afin de me ravitailler en gasoline. Je regrette. Emmenez-nous à Nikolaïevsk, que je réponds, afin de voir ce qu'il dirait. Je vous ai dit que le propriétaire du navire n'était pas là. Je ne peux pas agir sans ses ordres. Mais je suis prêt à vous payer mon passage et celui de mes hommes. Votre armateur n'aura rien à dire. Nous n'avons rien à manger, sommes épuisés. Vous n'allez pas nous laisser ici. Vous m'avez demandé ce que je venais faire à Chobinsk. Je vous réponds. Je voulais me réfugier dans la baie pour y attendre la fin de l'ouragan. L'adresse de mon gouvernail s'est brisée au moment où nous étions dans la passe. Voilà. Entre marins, on ne se lasse pas ainsi. Chacun fait ce qu'il veut, conclut mon Prussien, ou tel. Je vous ai dit que je ne pouvais pas vous prendre, c'est tout. La baleinière va vous ramener à terre, et bonne chance. Vous, à ce moment, un homme accourut, venant de la cuisine. Il cria en allemand. « Le déjeuner est servi, Herr Stein. Moi, je comprends l'allemand. Et je me rappelais que vous m'aviez dit que le capitaine de l'Adler se nommait Stein. Tout devint clair. Le lynx était là pour venir reprendre M. Drake et sa fille au bagne. Et les 7 hommes que j'avais vus, c'était Kressler et ses pirates. Mais je n'eus pas le temps de réfléchir à tout cela, car Stein, furieux de cette interpellation, s'élança vers l'homme qui venait de l'appeler et lui déchargea au bas du rein le plus splendide coup de botte que j'ai jamais vu appliquer. Jérusalem, le pauvre air fut soulevé de dessus le pont et alla s'abattre contre le bastingage. Moi, je n'avais pas bougé. Vous les menez un peu dur, vos armes, fis-je observer doucement. Mêlez-vous de ce qui vous regarde, maugréa brutalement l'individu. Et débarrassez le plancher de votre sale présence, je vous ai assez vu. Moi aussi, ne puis-je m'empêcher de répondre. Goodbye. Je rejoignis mes hommes qui étaient restés à la coupée, et avec eux, je redescendis dans la baleinière qui nous ramena de suite à terre. Je viens d'arriver, je vous ai aussitôt réveillé pour vous raconter l'histoire. Qu'en pensez-vous ? Oh, je pense que c'est bien Stein. Pas d'erreur possible, s'écria Fernaud. Et c'est bien Kressler et ses hommes que vous avez rencontrés. Je me rappelle maintenant que Grigoriev, le commandant du bagne d'Anyutchkin, vous avait prévenu avant d'expirer que Kressler allait revenir, mais la mort ne lui avait pas laissé le temps de préciser quand et où. Trop d'affaires. En tout cas, nous voici ici bloqués, grommela Watson, et sans pouvoir même demander aide aux autorités russes, puisque ce serait vous faire reprendre avec vos compagnons. Peut-être quand... Capitaine Watson, interrompit Fernaud brusquement, êtes-vous sûr de vos hommes ? Oui, je les connais tous les quatre depuis des années. Rien à craindre de leur part. Mais pourquoi ? Bien, moi, vous et vos quatre matelots, nous sommes six. Oui, je le pense, et si je sais toujours compter, observa Watson. Je dis six hommes solides et déterminés. Donc, cette nuit, nous pouvons profiter de l'obscurité et atteindre le lynx à la nage. Il ne doit pas y avoir à bord plus d'une douzaine d'hommes, maintenant que Kressler et les six pirates sont à terre. Six hommes comme nous valent 12 rascals et plus, sans compter que nous en virions par surprise et que la moitié d'entre eux, au moins, seront couchés et endormis. L'affaire est faisable et nous a de grandes chances de réussir. Je ne vous parle pas de la reconnaissance des Drake. Vous ne m'avez pas l'air d'un homme sensible à ces arguments, tout comme moi. Mais vous pouvez toujours dire à vos hommes qu'il y a $10,000 pour chacun à l'arrivée dans le plus prochain port civilisé. Et M. Drake ne me démentira pas. Qu'en pensez-vous ?
Je pense que j'avais déjà pensé à cela en revenant. J'ai regardé le lynx en marin. Oui, il n'y a sûrement pas plus d'une douzaine d'hommes actuellement à bord, j'en suis persuadé. Quant à mes matelots, inutile de leur demander s'ils viennent, c'est oui. Seulement, il serait bon de prévenir aussi M. Drake. Mais il est bien entendu que moi je ne veux rien. Vous me comprenez, Fernaud ?
Oui, fit simplement le Canadien en serrant la main du capitaine du Ghost. Francis Drake et Margaret furent réveillés. Watson leur raconta sa visite à bord du lynx et leur soumit la proposition de Fernaud. Francis Drake ne put que l'approuver, tout en comprenant qu'il ne pouvait prendre part à l'expédition, tant sa faiblesse était extrême. Margaret, les yeux brillants, une tache rouge à chacune de ses pommettes, réussit à se mettre debout à force de volonté.
« Mais moi je vous accompagnerai, monsieur Fernaud, » dit-elle.
Je sens beaucoup plus forte et... » Elle n'en put dire plus. Une faiblesse l'a pris. Elle se serait affaissée si le Canadien ne l'avait soutenue.
« Non, ce n'est rien, » souffla-t-elle,
tandis que Fernaud, doucement, l'aidait à s'étendre de nouveau auprès de son père. Hélas, la matière avait dominé l'esprit. Les quatre marins du Ghost avaient tout entendu. L'idée d'échanger des horions et de s'emparer du schooner les avait remplis d'enthousiasme, d'autant plus que leur rage était grande contre Stein, coupable à leurs yeux du plus grand crime dont il peut se charger un marin, refuser de secourir des camarades dans le malheur. Quoique cela, Fernaud les loyalement les prévint de la gravité de l'entreprise. « Moi, M. Drake et Miss Margaret, nous sommes des forçats évadés du bagne d'Anyutchkin, expliqua-t-il. Nous avons dû tuer le commandant du bagne, un complice de Kressler.
Si nous sommes pris, c'est la potence pour nous. Et pour vous aussi, sans doute, car vous serez considérés comme nos complices. Il faudra donc nous battre en désespérés et en nous disant que si nous ne parvenons pas à nous emparer du schooner, nous sommes tous perdus.